שיר זה, מיישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vayakhel et nous allons nous pencher à présent sur la distinction, la différence selon la vie du Zohar et de Nahmanid, le Ramban, qui dit qu'il y a deux commandements de construire le Mishkan. Il y a un commandement qui a précédé la faute du Vaudor. Il y a un commandement qui a suivi la faute du Vaudor. Donc, c'est comme si quelqu'un joue au coup a ordonné à deux reprises. Une fois avant, une fois après. Pas comme dit Rashi, que le Midrash Tanhuma, que le Mishkan n'a été ordonné que pour réparer la faute du Vaudor. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, HaKadosh Baruch Hu n'aurait pas ordonné la construction du Mishkan. D'après le Zohar, le Mishkan a été ordonné à deux reprises. Et du fait de la faute du Vaudor, donc il y a eu un changement, il y a une dimension nouvelle. Alors nous allons essayer de comprendre en quoi en fait, c'est la conséquence de la faute du Vaudor. Si le Mishkan, il n'est plus de la même dimension, qu'il n'est pas comme il aurait dû être. Alors, en quoi consiste la faute du Vaudor? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Alors, il y a... Moshe Rabbeinu, il est dit dans Parashat Kitissa que le peuple a vu... Que voya un qui bochèche Moshe l'arrêt d'être minar. Moshe a tardé à descendre de la montagne. Et Chachamim nous disent bochèche. Il décline le mot bochèche, tarder, en deux mots, bachèche. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est monté le lendemain de matin Torah. Le 7 Sivan. Donc, il devait rester 40 jours. Il dit, voilà, dans 40 jours, je descends. Eux, ils ont cru que c'était 40 jours. C'est quoi 40 jours? C'est 40 fois 24 heures. Donc, ils devaient descendre, selon leur compte, le 16 Tammuz à midi. Et le 16 Tammuz à midi, Moshe n'est toujours pas descendu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils bochèchent Moshe. Donc Moshe a tardé, et c'est du fait de cette incompréhension. Alors, ils ont dit, fais-nous un Elohim, un Dieu, on traduit par Dieu, mais Elohim, ils ont demandé, qui marche devant nous. Pourquoi? Qu'ils aient Moshe Aïch, voici que cet homme Moshe, qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et après donc, Aaron leur dit apporter de l'or. Il prend l'or, il le met dans un sac. Et il le jette au feu, il sort ce Hegel. Donc quand le Hegel, le veau, apparaît, Hegel, c'est où Hegel Masecha. Ils disent, voyons-moi, Ele Elohecha Israël, Asher Eloucha Meret Misraim. Ils ont dit, voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter d'Égypte. C'est de dire ça, c'est une aberration. Et si on prend les choses au sens littéral, au sens simple, c'est une aberration. Comment le Hegel qui vient d'apparaître, ils disent que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Alors il y a ici quelque chose de amok, de profond. Eux, ils ont pris, ils voulaient... Ils ont pris le tasse, ils ont pris la plaque d'or sur laquelle Moshe a inscrit Aléchour pour récupérer le cercueil de Yosef qui était dans le Nil. Ils ont récupéré ça, ils ont jeté dans le feu et c'est ça qui a fait que le Hegel est apparu. Et quand ils disent Elohecha Israël, nous avons vu déjà à plusieurs reprises qu'en Égypte, les Égyptiens, ils avaient une conscience de Elohim. du pouvoir du nom de Dieu Pharaon. Quand Moïse se présente devant Pharaon, il lui dit, le Dieu, Yudke Vavke Hachem, m'a envoyé. Il dit, Hachem, je connais pas, je connais Elohim. Nous avons vu à plusieurs reprises que le sens de Elohim, c'est le Dieu créateur de la nature, des règles de la nature. Donc, les Égyptiens, Pharaon lui-même et les Égyptiens maîtrisaient les forces de la nature. Donc, ils comprennent qu'est-ce que c'est Elohim. Et là, Moshe a introduit une autre dimension. À la sortie d'Égypte, il y a une autre dimension qui apparaît. C'est le Shem Havaya Baruch Hu, qui est au-delà des forces de la nature. Donc, c'est ce que nous disent les Mkoubalim. Le Hari à la Bacham, il nous instruit qu'il y a deux conduites en ce monde. Il y a la conduite globale et la conduite droite. Aïgoulim veyosher. En quoi cela consiste? Est-ce que en d'autres termes, c'est la conduite globale naturelle de ce monde? Ce qu'on appelle, en d'autres termes, Ashgacha Klalit, ce qui concerne l'ensemble de l'humanité. Donc, tout le monde est soumis, l'ensemble de l'humanité est soumis aux règles de la nature. Et nul ne peut s'en détacher et s'en libérer. Et il y a une autre conduite qui est particulière, qui dépasse les règles de la nature, c'est la conduite miraculeuse. Elle se traduit par le Shem Abaya Baruch Hu, Yudke Vavke. Elle commence à apparaître par Avraham. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a garanti d'avoir une descendance nombreuse. Et Avraham dit à Akadosh Baruch Hu, je sais que j'ai vu dans les étoiles que je n'aurai pas de descendance. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, sous les étoiles, tu n'as pas de descendance. Il a placé au-dessus des étoiles. Et il lui a dit, regarde, si tu arrives à compter les étoiles, les astres, alors telle sera ta descendance. Donc on voit que pour que Avraham Avinu ait des enfants, pour que Am Israël apparaisse, vienne au monde, donc c'est quelque chose d'autre qui se passe. C'est quelque chose qui est au-delà des règles de la nature. Et c'est comme ça que la sortie d'Égypte va se produire. Donc les plaies sont miraculeuses, au-delà des règles de la nature. La sortie elle-même est miraculeuse. Et au fur et à mesure, jusqu'au moment où ils arrivent au Arsinaï, ils vont constater les miracles quotidiens, au quotidien. Les nuées, la manne, le puits, etc. Toutes sortes de miracles. Continue. C'est cette démarche, cette conduite qui est appelée le yosher, la droiture. C'est-à-dire qu'il y a une relation droite et directe entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Moshe Rabbeinu, et c'est ça qui fait la particularité d'Israël. Non pas en tant qu'individu au pluriel, mais en tant que nation. La nation juive, c'est ça ce qui leur a permis de déclarer une déclaration inspirée, telle que le déclarent les anges. Naase v'nishma. Et les Chachamim disent qu'ils se sont portés, ils sont arrivés devant la montagne, comme un seul homme, avec un seul cœur. Donc c'est une puissance, c'est une cohésion totale des individus, dans une communion totale de millions d'individus, dans un seul but, avec une cohésion, une solidarité sincère. Cette force-là, c'est la force de la nation juive, de la déclaration de Keish Echad Belev Echad, c'est le Shem Havaya Baruch Hu. Là, Moshe, qui c'est qui fait cette cohésion? C'est Moshe. Sans Moshe, la cohésion risque de vaciller. Et c'est ce que nous constatons ici. Ils ont été pris, nous disent les Chachamim, qu'ils ont eu des troubles, ils ont eu des doutes, etc. Ils ne savaient pas où ils en étaient. Alors il demande à Aaron, « Ah, c'est l'anneau Elohim. Nous, cette dimension-là de Shem Havaya, on ne peut pas. On va faire Elohim. On veut une conduite naturelle, pas surnaturelle. » Et c'est ça ce que le Hegel, Hegel, c'est agol. Le mot Hegel fait référence à la conduite ronde. Il est marqué que le rond, ag, ouga. Il y a un concept de faire, de désirer une conduite ronde, naturelle. En effet, la Gemara raconte que Honyama Agel, il a fait un rond, il n'y avait pas la pluie, la Gemara dans Tanit, il n'y avait pas la pluie, et donc ils ont demandé à Honyama Agel de prier. Donc lui, il a fait un rond, il est rentré dans le rond, il a dit, Ag Oga Ve'amad Betocha Ve'ama Ribono Shel Olam, Banecha Tzrichim Likshamim. Alors il n'a pas bougé. La pluie, elle a commencé à tomber. C'est quoi ce Ag Uga? Donc, il n'a pas voulu faire quelque chose de surnaturel. Il pouvait faire quelque chose, demander quelque chose qui soit de l'ordre du surnaturel, mais il a dit, je vais limiter le miracle à la conception naturelle. Donc il a fait un rond, il a dit, je ne fais pas quelque chose qui va au-delà de la nature. La même chose ici. Eux, ils ont réclamé, ah, c'est la nous Elohim, ma chérie, le cholefané, non. Ils ont voulu faire un Hegel. Un Hegel, c'est ce Hag Uga. Ils ont voulu que Akadosh Baruch Hu les conduise de manière naturelle. Et c'est pour cela que la nation, il y a eu une dislocation pendant ce moment-là de ce qui, du ciment de la nation juive. Preuve en est que personne n'est intervenu. C'est nous avons déjà souligné que la gravité, dans Parashat qui dit ça, il est dit que ceux qui ont véritablement fauté, c'est 1,5% de la population, des hommes de 20 à 60 ans. 1,5%, 3000 personnes. Donc c'est une quantité négligeable en fait. Alors la majorité des gens n'ont pas fauté. Alors pourquoi reprocher à Israël, comme il est dit, Obiom Pokdi ou Pakati Alechem, dans la prière, quand je vous réponds à Moshe, il lui dit, le jour où je les punirai, alors je leur mettrai aussi le compte de la faute du Hegel. Donc il n'y a pas une génération qui ne paye pas un petit peu la faute du Hegel. Alors pourquoi autant de sévérité si ce n'est qu'un 0,5% qui a fauté? C'est étonnant. Et là, la faute, en fait, c'est qu'ils ne sont pas intervenus. C'est que le système s'est disloqué pendant un instant. Pendant un moment, il n'y a plus eu d'union, de ciment de la nation juive. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont demandé que Akadosh Baruch Hu les guide de manière naturelle. Et de manière naturelle, Israël n'existe pas. Nous avons vu que Abraham a dit, de manière naturelle, j'ai pas d'enfant. Il le dit, sous les astres, il n'y a pas d'enfant. Mais toi, je te place au-dessus des astres. Donc, le het à Hegel, c'est de vouloir s'inscrire sous les règles de la nature. C'est ça la faute du Vaudor. Et c'est pour cela que la nation juive s'est pour un temps disloquée, jusqu'au retour de Moshe. Donc à présent, nous pouvons comprendre qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux au Mishkan. Il y a le Mishkan d'avant la faute et le Mishkan d'après la faute. Le Mishkan d'après la faute, il est d'un niveau inférieur, de la même manière que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, pour les deuxièmes tables, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller tailler Pesol Lecha Sheneluchot Avanim. C'est la paracha que nous lisons pour les jours de jeûne. Va, taille de deux tables de pierre. Donc c'est de manière naturelle qu'il faut faire le support de l'écriture doit être produit par l'homme. est apporté par l'homme de manière naturelle, pour que le surnaturel intervienne, l'Écriture. Il en va de même pour le deuxième ordre du Mishkan. C'est de ce même ordre-là. C'est pour ça qu'il est dit ici, c'est ici qu'on nous instruit que Elea Devarim Asher Tiva Hashem La'asot Otam. Ce sont ces choses-là que vous devez faire. Comme si, que si les Bnei Israël n'avaient pas fauté, ils n'auraient pas eu besoin de véritablement construire les choses. Les choses seraient faites d'elles-mêmes. Mais là, il faut les faire. Les premières tables, Kadosh Baruch Hu a donné les tables. Les tables sont données, l'écriture, dans le corps. Et l'écriture, le corps, le support matériel qui contient la Torah, est donné par Hachem. Aluchot, comme il est dit, Aluchot ma'ase Elohim hema ve'amirtav mirtav Elohim. Non seulement les tables sont données par Dieu, mais aussi l'écriture. Donc c'était de cet ordre-là. Donc s'il n'avait pas fauté, le Mishkan, il suffisait en fait de vouloir construire par la volonté de vouloir faire les choses se seraient réalisées. C'est à ça que ça fait référence. Le travail se fera seul. Et après la faute, il faut faire. Même si le travail se fait seul, mais il faut faire un acte pour que la Shekhina puisse venir résider dans. C'est la différence entre les premières tables, entre les premières tables et les secondes tables, entre le premier ordre de construire le Mishkan et le second. Donc, c'est deux dimensions totalement différentes qui ne se ressemblent pas véritablement. Et c'est à cela que, peut-être, fait référence cette mahloket qu'il y a entre Betzalel et Moshe. Moshe, quand il ordonne à Betzalel de faire le Mishkan, il lui donne en premier l'ordre de construire les objets. L'arche, la table, la menorah, le misbéach, il lui ordonne de construire les objets. Et seulement après, il lui dit, fais le Mishkan, fais la bâtisse. Et Betzalel de lui dire, c'est derech haolam, généralement quelqu'un quand il construit une maison, il fait d'abord la maison, après il met les meubles. Il lui dit, kelim she'ani oseh lecha nachnisem, c'est kelim là que je vais faire, où je vais les déposer? Alors après Moshe, il lui concède, il lui dit alors fais le Mishkan et après tu feras les kelim. Donc cette discussion-là, en fait, Moshe Rabbeinu voulait réparer. Donc il y a deux dimensions, comme nous l'avons dit, deux dimensions. S'il n'avait pas fauté, alors il était suffisant de construire les objets, de les placer, et la bâtisse serait faite seule. Parce qu'en fait, la bâtisse, c'est la bâtisse, le Mishkan, c'est le Olam, il est le Mishkan Hashem. La globalité de la création aurait été alors la résidence de Dieu. Après la faute, il faut déjà établir une dimension, le lieu du Mishkan. D'abord, on construit le Mishkan. C'est ce que lui dit Betzalel. Et après seulement, y introduire les objets. Donc, c'est une autre dimension. Pourquoi d'abord on fait les murs du Mishkan pour préserver, en réalité c'est ce qu'on appelle Ormakif. D'abord on met le Talit et après on met les Tzilim. Pourquoi? Parce que d'abord on a besoin de s'envelopper pour se préserver des attaques extérieures et après on fait pénétrer les flux intérieurs. Donc c'est pour ça que il faut faire d'abord la bâtisse. Mais ça c'est la conséquence de la faute. Mais s'il n'avait pas fauté, alors à ce moment-là, le monde aurait été réparé. Voilà que eux-mêmes, quand ils ont dit Naaseh v'Nishma, ils ont éliminé les restes du venin que a inoculé le serpent à Hava et à Adam lors de la faute. Pascazou Amatam, nous dit la Gemara. Donc le monde aurait été réparé. Le fait d'avoir fait le Hegel va faire tomber le système et il faudra faire de manière différente. Donc on doit faire une bâtisse, on doit consacrer la bâtisse, préserver la bâtisse de par ses murs et des influences extérieures et après y introduire les objets. C'est ça la différence. En fait, il y a deux dimensions ici qui sont mentionnées dans, et c'est pour ça que on dit Betzalel, il lui a dit tu étais à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire que Betzalel, il est que à l'ombre. Il fait de l'ombre. Il est Moshe, il est dans la lumière. Donc, ne croyons pas que quand on lui dit tu étais à l'ombre de Dieu, c'est que Betzalel, il est plus haut que Moshe. Il est à l'ombre, alors que Moshe, il est la lumière lui-même. Donc, Moshe a voulu indiquer à Betzalel comment il fallait faire, mais Betzalel n'a pas saisi la dimension de ce que Moshe voulait lui dévoiler. Alors, il était encore à l'ombre. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas pu se réaliser. Donc, et en fait, Moshe a voulu réparer la faute du veau d'or en ordonnant à Betzalel la démarche qui prévalait avant la faute du veau d'or. Ça n'a pas marché. Baruch Adonai Leolam, amen ve'amen.